Tous les lundis soirs de 19 à 20h, retrouvez Prokisto, ROC 103.7.
Découvrez toute l'histoire de la pop et du rock
avec Anthony et Polo.
Prokisto, tous les lundis.
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce Prokisto un peu spécial, et puis ceux qui vont suivre, parce que là, c'est pour The Best of the Worst of Prokisto, et non, c'est pas le best, mais c'est le meilleur du pire. Donc on va remonter le temps à travers les Prokisto, et on va se souvenir, en fin de compte, du début où on avait créé l'émission avec Raoul. Et souvenez-vous, le générique, eh bien, ça ressemblait à ça.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Alors, la grande et les petites histoires de la pop et du rock,
c'est sur REC, dans Prokisto.
Avec Raoul et Polo, on se retrouve un jeudi sur deux.
De 20h à 21h.
Prokisto, chez les Choukas, c'est maintenant. Donc en octobre 91, premier concert d'Oasis au Broadwalk. En décembre de la même année, Chris Sharratt, le responsable de musique Max City Live de Manchester, découvre une cassette démo d'Oasis. Il chronique sur deux chansons à Noël, comparant Oasis à deux gloires locales, No Side et les fameux Inspiral Carpet. Inspiral Carpet, qui était le premier groupe donc avant Oasis de Liam. En janvier 92, Noël part à la chasse d'une maison de disques et réussit à rencontrer Tony Wilson, le patron de Factory, qui refuse de les signer, trop baggy, nota ancêtre de la Britpop. En avril 92, premier concert hors de Manchester au Dartford Polytechnique. Le groupe enregistre sa seconde démo où figure une première version de Rock'n'Roll Star qui échoue entre les mains du manager de No Side. Grâce à cette cassette, Oasis est invité et a enregistré une session pour l'émission de radio locale Hit the North.
Waouh.
Oui, oui, tout à fait, monsieur Raoul. Le lendemain, le groupe joue à The Venue dans le cadre du festival In the City. Noël et Liam s'engueulent sur scène. Première engueulade sur scène. Il y en a eu bien d'autres après. Hein. Donc, première engueulade sur scène. J'ai perdu mes notes.
Devant une multitude. Il devait y avoir du monde, je pense.
Ouais, ouais. Donc il envoie une cassette, il y avait une multitude de directeurs artistiques qui étaient venus voir un autre groupe et qui s'est totalement désintéressé par le piteux concert d'Oasis. Juin 92, premier article dans le Manchester Evening News qui voit déjà en eux les grands espoirs de la ville. Décembre 92, Noël fait passer une cassette à Johnny Marr de The Smiths qui le rappelle le lendemain même, enthousiaste. Se découvrant une passion commune pour les guitares, ils partent ensemble à Doncaster voir un magasin où Johnny Marr dépense plus de 9000 livres en guitare. Il promet à Noël de parler d'Oasis à son propre manager, Marcus Russell.
Et on est déjà en début 93, Marcus Russell prend contact avec Oasis. Hélas, lors d'un concert avec aucun spectateur, Oasis joue quand même tous ses morceaux et même réalise un rappel. Il paraît évident aux membres du groupe, tout du moins, qu'Oasis peut vraiment avoir du succès. Noël arrête de fumer de la dope et écrit 50 chansons en 2 semaines. Après 2 années de répétition et de concerts dans la région de Manchester, le groupe se rend à Glasgow pour un concert dont il croit assurer la première partie. Mais pour le promoteur, il est hors de question de les laisser jouer. Le groupe insiste, menace d'incendier la salle et a réussi à jouer 4 de ses chansons. Bien leur a pris, puisqu'il y avait le président du label Creation Records, Alan McGee, qui était venu voir un autre groupe. Et il est impressionné par leurs prestations. Oasis signe donc un contrat avec Creation en août 93. Mais le label ne pouvant pas distribuer leurs disques en Amérique, le groupe dut signer un contrat avec Sony. Dès lors, la devise du groupe est alors de gagner un max de blé en un minimum de temps. Le succès arrive donc un an après avec Supersonic.
Et on va s'écouter Supersonic.
To be myself.
On vient d'écouter Supersonic et vous êtes toujours sur Radio Écho des Choucas.
Et c'est de la balle.
Et c'est de la balle.
Hasta la vista, baby.
Le groupe fut également en tête d'affiche de prestigieux festivals tels que Rob Werchter en Belgique, le Festival international de Benicassim en Espagne ou le 5e festival au Royaume-Uni. Le V Festival au Royaume-Uni le 22 août 2009, qui restera la dernière date dans l'histoire d'Oasis. La tournée fut arrêtée le 23 août 2009 à Chelmsford, où Liam annonce une soi-disant laryngite qui empêche le groupe de se produire à la deuxième date du V Festival. Puis, à quelques minutes avant de monter sur la scène principale de Rock en Seine, le 28 août, Noel Gallagher annonce son départ définitif du groupe. Les deux dates restantes de la tournée européenne, Constance et Milan, sont de fait annulées.
Ouais. Après l'annulation de leur participation au V Festival, officiellement à cause d'une laryngite de Liam, donc Oasis est prévu en tête d'affiche du festival Rock en Seine. Peu de temps avant de monter sur scène, les frères Gallagher se battent violemment, dans les coulisses, une guitare ayant même été pulvérisée. Un organisateur annonce aux 30 000 personnes présentes devant la grande scène que le groupe ne jouera pas et ajoute qu'Oasis n'existe plus. Noel Gallagher fait le soir même une annonce via le site officiel du groupe. Alors je cite: c'est avec une certaine tristesse et un grand soulagement que je vous annonce que j'abandonne Oasis ce soir. Les gens écriront et diront ce qu'ils voudront, mais je ne pouvais simplement pas continuer à travailler avec Liam un jour de plus. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont acheté les billets pour les concerts de Paris, Constance et Milan.
And I'll sing the blues if I want. voices and I'll sing the blues if I want.
Écoutez REC 103.7.
Vous êtes avec Raoul et Polo et aujourd'hui nous avons donc un invité d'honneur, une guest star comme on dit dans la langue du chèque qui expire. Steven, comment allez-vous ?
Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce type-là est un professionnel.
Eh oui, Steven, qu'on va retrouver régulièrement avec nous, qui va co-animer donc Prokisto avec nous. Donc, juste dire quoi, que tu arrives du Canada, que tu étais animateur dans une radio locale là-bas.
Oui, j'arrive du Grand Nord.
Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris ?
Ah merde. Et oui, bah merci de m'inviter pour cette première émission pour moi. Ça me fait énormément plaisir de vous accompagner sur cette première de téléphone en voiture Simone.
Racine de roue,
Et on vient de s'écouter Métro c'est trop, donc qui est un des premiers morceaux composés, écrits par Jean-Louis Aubert. Artistiquement et surtout humainement parlant, l'expérience donc de ce concert, comment on voit, la salle américaine là, est une expérience qui se relève très marquante. Les quatre musiciens déclareront plus tard avoir ressenti lors de ce premier concert une alchimie mystérieuse et excitante.
Ce n'est pas sale.
Non. Ce qui les pousse à rester ensemble.
C'est de la fumette.
Ça le sent.
Ça sent la fumette.
Ils partent donc à la recherche d'engagement et font des salles de plus en plus grandes. Ils jouent dans les MJC, les soirées dansantes et bientôt les salles de spectacle. Alors les soirées dansantes, on pourrait imaginer le thé dansant avec Yvette Horner. Non. Alors il faut savoir que Aubert et Kolinka viennent, enfin Aubert surtout vient du 16e. Et dans le 16e, on organise ce qu'on appelle des rallyes. Et les rallyes, en fin de compte, c'est les gens de bonne famille qui font des soirées avec leurs enfants de façon à pouvoir...
Les mariés, quoi.
Les mariés, voilà, de façon à ce qu'ils n'aillent pas forniquer avec les gens du peuple et autres.
La plèbe.
Voilà. Et donc, le groupe, avec un son anglo-saxon, fait donc sensation partout où ils passent. Ils jouent leur premier concert le 28 décembre au Gibus, prestigieuse salle club parisien, sous leur nouveau nom de Téléphone. Parce que faire la promotion d'un groupe dénommé point d'exclamation, c'était pas évident. Donc ils deviennent des habitués des fins de soirée au studio de Radio France avec Jean-Louis Foulquier à l'époque.
Le fameux Jean-Louis Foulquier,
à l'origine des Francopholies d'ailleurs.
Oui. Et oui, donc les mois qui suivent voient l'ascension fulgurante du groupe, mais mars 1977, à l'initiative de la RATP, le groupe donne un concert gratuit au métro République. Il en résulte un énorme embouteillage et le blocage de la ligne 11 du métro. Il parie qu'il y a même eu un rappel à la fin du concert. En mai, ils assurent la première partie d'Eddie and the Outworlds, leur volant la vedette. Juin, profitant de la défection de Blondie, ils jouent à l'Olympia en première partie du groupe américain Télévision. Le concert remporté est un très grand succès et des critiques enthousiastes. Dès le lendemain, le groupe enregistre son premier 45 tours, en public au Bus Palladium, autoproduit à 2000 exemplaires, et vendu 5 francs à la sortie des concerts par le groupe. Il comprend Hygiaphone et Métro, c'est trop.
Alors pour les jeunes, hein, 5 francs, c'était à l'époque où on pouvait se payer un cinéma sans casser son PBL.
Je veux vous parler de l'arme de demain, enfanté du monde et lanceur à la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. Bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. N'oublie pas la fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants. Maman ne travaille plus sans ses excitants. Quelqu'un leur vend de quoi tenir le coup. Je suis un électron bombardé de trottes. Le rythme de la ville
Ben aujourd'hui, on va pas...
Oui, oui, je t'en prie. Vas-y.
Oui, ben aujourd'hui, donc, on va continuer du coup l'histoire de téléphone qu'on a commencé il y a 15 jours.
Mais sans Steven.
Oui,
mais
sans Steven. Steven. Alors Steven a des obligations professionnelles.
Oui. Alors de par ses origines canadiennes, il me semble, il se doit de donner quelques jours de sa vie à une unité d'élite qui est apparentée à Top Gun, la célèbre école de pilotage américaine.
Mais ça, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, ça faisait partie de ses petits secrets. Mais,
Une petite pensée à toi, Steven.
Oui, si tu nous écoutes, Steven, on est avec toi. Donc, on avait laissé notre fleuron du rock français en pleine gloire. Et après 3 albums chez Pathé Marconi, le groupe a signé fin 81 chez Virgin, en échange d'une avance de 5 millions de francs.
De Dieu.
Ah oui. Le patron de Virgin, Richard Branson à l'époque, a l'intention de faire d'eux un groupe de dimension internationale. En effet, malgré quelques tournées à l'étranger, Téléphone reste dans une large mesure un phénomène purement franco-français. En mars 82, Téléphone enregistre son 4e album, Dure Limite, et sort dans les bacs le 3 juin. On va écouter 2 extraits, dont Le Chat, donc, qui est à notre connaissance le seul titre revendiqué par Corinne Marieno.
La chatte, donc.
Ouf, oui, si tu veux. C'est fin, ça, c'est fin. Oh,
ça se mange sans fin.
Oui, ça se mange sans fin, oui. Alors, donc, Le Chat est suivi derrière par Le Temps. Allez, c'est parti.
J'ai rien à dire sur Le Temps.
Le retour, le chat, ce voleur d'amour. Allez, viens ici. Viens. Viens ici, petit matin.
passer des secondes. Si tu dis une chanson à finir et qui n'en finit pas. Dans ce grain qui ne tombe pas pourrait bien mettre un tien.
Et on vient de s'écouter Le Chat et Le Temps.
Le 14 juin 82, les membres de Téléphone réalisent un rêve en faisant la première partie des Rolling Stones devant 80 000 spectateurs à l'hippodrome d'Auteuil. Mais le track et des problèmes techniques gâchent quelque peu la fête. Alors quand on dit des problèmes techniques, apparemment ce serait plutôt les sonorisateurs qui auraient un petit peu, je dirais, cassé l'ambiance de Téléphone. Et ça se fait beaucoup justement dans les groupes avec les premières parties. Ah oui. Des fois la sonorisation, bon,
pour pas voler la vedette.
Voilà, on va dire ça.
Salut, c'est Ultra Vomit. Vous êtes en direct sur Prokisto. Prokisto.
En 84, Téléphone est un groupe fatigué. La pression commerciale, les tournées mondiales incessantes et le demi-échec récent, notamment dans certaines villes des États-Unis, commencent à entamer l'ambiance au sein du groupe. Cette fatigue se retrouve dans le son de Un autre monde, leur nouvel album. Enregistré au cœur de la campagne anglaise, le disque est de loin le plus mélancolique et les titres sont certainement les moins connus. Et d'ailleurs, on va écouter deux titres là de cet album qui sont Le Garçon d'ascenseur et Les Dunes, titres qu'on a très très peu entendus. Ouais. C'est parti.
J'ai pensé à tous ces trucs qui m'emmerdent. Les visages de ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur me font peur. C'est du passé. Je ne veux plus y penser. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et je me tue à le comprendre. heures de gare à traverser. Il y a tant de gens qui peuvent m'apporter, me faire voyager. Et je veux les voir, pourquoi pas ce soir. Ouais, je veux les voir, ne sois pas dans le cas. Car je ne veux pas descendre, je ne pourrais pas t'attendre. Je veux plus.
Allez, allez, on se réveille. Vous avez bien dormi? Ah, moi, c'était limite, hein. Je sais pas vous, Polo.
Eh ben oui, on voit bien quand même que le groupe avait lâché prise. Autant ils étaient capables de faire des tubes avec quasiment tous les titres d'un album.
Ouais, c'est un peu mollasson, là, hein.
Ouais. Début 86, le groupe entre en studio pour produire un nouvel album. Mais la tension s'est accentuée entre les musiciens et le seul single, Le jour s'est levé, sort en avant-première pour faire patienter les fans. Ce sera leur dernier succès. Numéro 4 au top 50, classé 22 semaines, fin 85, début 86. Et donc on va s'écouter, on va l'écouter tout de suite, là, Le jour s'est levé.
Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve qui fasse s'en aller, comme le jour avançait, en moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans ma réalité. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, pour qui veut bien voir. Le voile est levé sur ma pauvreté. Qu'ai-je donc à garder qui ne sera soufflé? Oui, le voile est levé. Tout est si collé. La nuit m'a soufflé. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir et qu'il est déjà tard. Déjà tard. Mais pas trop tard. À toi de voir. À toi de croire. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée et la mort qu'une.
Et on vient de s'écouter Le jour s'est levé, donc la dernière composition du groupe Téléphone. Donc oui, il y aura que ce morceau qui va sortir et donc il n'y aura pas d'album derrière. Et depuis quelques mois déjà, les membres du groupe s'éloignent de Téléphone, collaborant de plus en plus à des projets extérieurs. Corinne Marienneau fait une apparition aux côtés de Gérard Lanvin dans le film « Moi vouloir toi » et cette dernière, avec Lou Bertignac, participe à la bande originale du film « Subway ». Alors, une petite anecdote sur « Subway ». Donc c'était en tout début de l'année 84 et donc Corinne Marienneau, qui était très amie avec Eric Serra, qui était alors bassiste de Jacques Higelin, et Serra avait pour ami Luc Besson, donc Luc Besson qui venait de sortir son premier film Le Dernier Combat. Il préparait et devait commencer à tourner le film Subway, et Eric devait composer la musique et une américaine devait s'occuper d'écrire deux chansons devant être prête avant le tournage. Et l'américaine a planté Luc et Eric appelle Corinne pour que le sortir d'affaire, mais Besson a demandé la musique à Serra et Serra a demandé en fin de compte à Corinne.
Au final, ça s'est fait quand même.
Voilà. Et donc Corinne écrit les textes de It's Only Mystery et de Guns and People. Ces textes sont partis chez Eric, qui a rapidement composé des musiques et enregistré une maquette. Donc ils ont fait écouter la maquette à Luc Besson. Il dit non, It's Only Mystery, ça me plaît pas. Donc oui, donc ils reprennent le boulot. Et Louis Bertignac, du coup, vient les retrouver et aide à réaliser une autre maquette et change les arrangements. Et là, Besson, il accepte. Et donc, cette chanson, c'est Corinne Marienneau, auteur, Eric Serra, compositeur, Louis Bertignac, arrangeur.
Justement, on va s'écouter l'excellent It's Only Mystery, interprété par Arthur Sims. C'est parti.
How can I keep on smiling at their disguise? When I know nothing good ever comes from lies, my heart is no beginner, but still I can lose my temper. Fucking TV. We're so bored, we don't even care what we see. Takes our strength away and never shows us the way. No. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. How can the banks of a water and love is a river. Oh yeah. But is a child the answer? It's only mystery. Yeah.
Écoutez, pour finaliser tout ça, je vous propose d'écouter une petite blagounette. Cette fois-ci, c'est Polo qui va nous la faire.
Oui, alors c'est une petite blagounette de musicien. Donc, elle n'est pas bonne.
On prend.
Alors, c'est Mozart et Bach qui vont boire un verre. Bach commande un baby, s'il vous plaît. Le barman lui sert, se retourne vers Mozart et lui demande « Et pour vous, ce sera quoi ?» Et Mozart de répondre « Un baby come back !»
Baby come back.
Ouais, c'est pas très bon. Bon, ben voilà, hein, c'est fini.
Alors, écoutez, on se retrouve donc lundi prochain. Et ben, bonne soirée à tous et surtout une excellente semaine.